Un étranger nommé Picasso chez Fayard vient d'obtenir le prix Femina Essai. Et Picasso l'étranger vient de s'ouvrir au Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est une exposition. Elle est l'auteur du livre et la commissaire de cette exposition. L'historienne Annie Cohen-Solal revient avec nous aujourd'hui sur une autre facette du peintre, ce passé méconnu de l'homme qui l'a occupé, elle, pendant 5 ans. Elle est notre invitée tout de suite à retrouver sur France Culture en direct jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Gesbert.
Nous avons pu demander à Pablo Picasso un petit moment d'isolement. Pablo Picasso, oui, asseyez-vous, je vous en prie, et recueillir ses dernières impressions de citoyen d'honneur.
Eh bien, elles sont très agréables, ces sensations des premiers jours du citoyen d'honneur.
Vous ne croyez pas que le fait maintenant d'être citoyen d'honneur d'Antibes vous attachera un peu à Antibes?
Ah non, il ne pourra pas m'attacher plus que j'étais déjà attaché. Et je suis tellement attaché que je suis devenu citoyen d'honneur.
Alors, c'est un état de
fait. À cause de mon attachement.
C'est un état de fait.
L'attachement que les autres ont eu pour moi aussi.
Est-ce que vous pensez maintenant vous fixer définitivement sur la Côte d'Azur?
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus qu'autre part, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je suis mon chemin, ma vie que je ne connais pas et elle suit, elle continue. J'aime beaucoup la Côte d'Azur, quoi, ça me rappelle mon pays qui était méditerranéen aussi et chaud comme ici. Mais enfin, rien de qui m'attire, je ne sais pas, en détail, n'est-ce pas quoi.
Je me souviens d'une phrase que vous m'aviez prononcée devant moi chez Madura. Vous me disiez « je porte encore beaucoup de blessures ». C'était une très très belle phrase.
Oui.
Moi je m'en souviens. Et est-ce que le climat de la Côte d'Azur justement les a guéris ces blessures?
Il les a guéris complètement, ouais.
Pablo Picasso, citoyen d'honneur de la ville d'Antibes, mais jamais naturalisé français. En 1940, sa demande sera refusée. Ce dédain sera-t-il la cause d'une de ces blessures évoquées à la fin de cet entretien de 1957? Qui sait? Peut-être notre première invitée. Bonjour Annie Cohen-Solal.
Bonjour.
Bonjour. Picasso, qu'on a tant célébré, tant exposé, dont on pense avoir absolument tout dit, tout su, tout appris. Comment vous l'avez re-rencontré?
Cet angle de Picasso l'étranger est un angle très cohérent avec les recherches que je mène depuis près de 30 ans, 35 ans, sur l'art. J'ai commencé à travailler sur l'art en devenant conseiller culturel de l'ambassade de France aux États-Unis. Auparavant, j'étais sartrienne. Et ce qui m'intéresse, c'est de croiser deux éléments. Un, le monde de l'art avec ses déplacements, les déplacements de ses agents, comme les marchands, les écrivains, les critiques. Et l'histoire de l'immigration. En fait, j'ai fait deux thèses, une avec Annie Kriegel et l'autre avec Raymonde Moulin, deux femmes. Et c'est un hommage que je rends à ces deux femmes en croisant ce travail. Il se trouve que donc Picasso, c'est très cohérent avec mes recherches, au croisement entre l'histoire de l'art et l'histoire de l'immigration, et en même temps, c'est très nouveau. Et c'est même un hasard, c'est le fruit d'un concours de circonstances. Je pense que jamais je n'aurais osé m'attaquer à un homme siècle comme Picasso, comme jamais je n'aurais osé m'attaquer à un homme siècle comme Sartre. Il a fallu que ce soit André Chiffrine qui me commande le livre. Et là, ça a été une phrase lancée par Benjamin Stora quand le président Hollande a inauguré le musée de l'immigration. Ce musée qui avait été construit, ce palais de la Porte Dorée, ce plus beau joyau d'art déco à Paris, qui avait été construit pour l'exposition coloniale de 1931, l'exposition internationale des colonies qui faisait gloire de l'empire colonial de la France, avec tout ce qu'on critique aujourd'hui. Et ce musée, donc ce joyau, est devenu aujourd'hui le musée de l'histoire de l'immigration. Et très, tout à fait au début, le mot Picasso a été prononcé et on a parlé de ce dossier de police qui est rentré en France en 2001 après avoir transité par l'Allemagne, puisque les nazis l'avaient volé à la préfecture de police en 1940, l'avaient emmené à Berlin, et puis les soviétiques l'ont volé, l'ont pris C'était des dossiers d'étrangers célèbres, vous voyez.
Ils n'ont pas pris que des œuvres, hein. ils ont pris aussi des dossiers.
Des dossiers de police, d'accord. Des étrangers célèbres. Ils ont pris ce dossier, ils l'ont emmené à Moscou, et la France les a récupérés en 2001. Donc il y a eu un petit peu de presse et un livre là-dessus, sur le dossier de police de Picasso. Donc les gens qui sont informés, moi je l'étais, savaient qu'il y avait eu un dossier de police, et qu'il était assez intéressant. Mais je crois que personne n'avait été regardé dans le détail. Et donc il s'agissait, pour moi, tout de suite, d'aller voir aux archives de la police, au Pré Saint-Gervais, de toucher ces papiers, de regarder des éléments qui n'avaient pas été publiés, comme des cartes de visite, des petits mots. Et puis, une archive, c'est quelque chose qui vous bouleverse. Donc, j'ai croisé les archives de la police en regardant les mains courantes des commissariats de police. C'est extraordinaire. Je dois dire que c'est un moment béni pour une chercheuse comme moi. Je veux dire, la beauté de mon enquête a été splendide. J'ai passé 5 années, mais magnifiques. Et alors, au même moment, Laurent Lebon, qui devenait directeur du musée Picasso, ouvrait les archives et j'ai demandé à voir, comme pour tous les étrangers, est-ce qu'il y a des lettres à sa famille? Quelqu'un qui débarque dans un pays qu'il ne connaît pas raconte ce qu'il voit. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de prendre le point de vue du sujet, le point de vue de Picasso. Il y a eu, comme vous l'avez dit, énormément d'expositions Picasso. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5 par mois, puisque Laurent Lebon disait que Picasso appartenait à la France. Et donc, j'ai vu pratiquement toutes les expositions, j'ai analysé en détail chacun des catalogues, et les historiens d'art ont fait un travail magnifique. Je me souviens de Picasso Bleu et Rose, ou Picasso Guernica, etc. Donc je me suis nourrie de ces expositions, mais dans le même temps, j'avais un autre angle. Et quelque part, je trouvais qu'il y avait un véritable gouffre entre ce que moi je découvrais aux archives et ce qu'on montrait dans les expositions, qui étaient surtout des œuvres. Donc il y a une approche formaliste qui décrit les œuvres sur le plan esthétique. Et il y a mon approche qui est une approche sociale, anthropologique et historique, qui regarde le point de vue de cet acteur social, cet agent social qui est l'artiste.
Oui, et c'est sa première période aussi, c'est presque l'enfance d'un peintre que vous racontez, ses premières années, premières décennies à Paris, en France. Je viens de faire connaissance avec un suspect, avec un étranger qui en octobre 1900 arrive à Paris pour la première fois avant d'être fiché toute sa vie par la police parisienne. Interrogation, rapport, carte de séjour, photo d'identité, référence de moralité, adresse successive. Écrivez-vous, Annie Cohen-Solal, à l'origine de ces documents, je n'ai repérer aucun crime, aucun délit, sauf celui de ne pas être français. Le timbre espagnol en capitale, apposé sur certains textes, signale une différence, une exclusion, une suspicion, un stigmate. Et c'est sur ce triple stigmate que vous allez travailler, à la fois dans cet essai, Un étranger nommé Picasso, et dans cette exposition, Picasso l'étranger, à voir en ce moment. Picasso l'étranger, c'est au départ un parcours assez typique d'immigré, hein, celui d'un homme qui va accéder à Paris par les Catalans de la Butte, racontez-vous, unique porte d'entrée dans la capitale, et qui va bénéficier de la chaîne migratoire et de cette solidarité familiale et géographique bien connue des spécialistes. Mais cet accueil et ce secours de cette communauté catalane vont se retourner contre lui, comment ?
Tout simplement parce que les Catalans sont établis à Montmartre depuis 20 ans. Ils viennent à Montmartre pour travailler, pour devenir artistes. Picasso avait lu leurs articles dans la presse catalane. Et pourtant, ils sont en général de gauche et certains sont anarchistes. Et en habitant avec eux, Picasso va prendre pied dans ce qu'on appelle un ghetto ou ce qu'on appelle un noyau halogène. Donc ces noyaux halogènes sont repérés par la police française parce qu'ils sont porteurs de germes de subversion. On est dans un pays qui sort de l'affaire Dreyfus, on est dans un pays dans lequel on a 6 ans auparavant assassiné le président de la République, Sadi Carnot, et qui l'a assassiné, c'est un anarchiste italien qui a été guillotiné. Donc on est dans des mouvances assez dangereuses, et la police des étrangers va se développer énormément tout au cours du XXe siècle.
Donc on surveille ces différentes communautés.
Il y a des indicateurs de police postés à Montmartre qui regardent les allées et venues des jeunes Catalans. Or Picasso revient donc la deuxième fois en 1901 pour une exposition à la galerie Vollard, et là j'ai retrouvé dans les archives, aux archives nationales, les rapports des indicateurs de police sur lui. Donc pour son deuxième voyage, qui disent: il se couche tard le soir, il reçoit des journaux dans une langue qu'on ne comprend pas, il peut à peine se faire comprendre, et de plus, il fait des tableaux qui représentent des femmes faisant l'aumône et que les bourgeois rejettent. Comme il demande asile, à son compatriote maniaque qui est suspecté anarchiste, donc il y a lieu de considérer Pablo Ruiz Picasso comme anarchiste.
Voilà, vous avez publié un extrait de ce signalement de ce qui précède, donc il est célibataire, il n'a pas souscrit sa déclaration au service d'étrangers. Et de ce qui précède, il résulte que Picasso partage les idées de son compatriote maniaque qui lui donne asile. En conséquence, il y a lieu de le considérer comme anarchiste. Son nom ne figure pas au sommier judiciaire. Il partageait vraiment ses idées ou pas ?
Picasso a toujours eu le cœur à gauche. Il a soutenu un anarchiste qui s'appelait Francisco Ferrer et il a signé une déclaration disant que il était contre la guerre de Cuba. Mais c'est tout. Ce que je sais, c'est tout ce qu'on sait. Picasso s'est très peu engagé. Il était toujours dans tous les combats politiques, mais très peu en première ligne. Il n'a pas fait son service militaire, par exemple, en Espagne. C'est son oncle Salvador qui a payé pour qu'il ne fasse pas son service militaire. Donc il était très antimilitariste, mais il n'était pas du tout anarchiste excité.
Mais d'ailleurs, il va être fiché S, mais il ne va jamais être arrêté ni jugé.
Non, je pense qu'une des choses, Olivia, sur laquelle il faut être extrêmement précis, c'est que ce livre ne doit pas être déformé. Je veux dire, ce que je dis, c'est des choses très très sophistiquées et très subtiles. Picasso n'a vraisemblablement jamais su qu'il était fiché. Picasso n'a jamais été traqué par la police. Mais Picasso devait, comme tout étranger, aller tous les deux ans faire renouveler sa carte d'identité. Il a dû aussi mettre ses empreintes digitales dès 1935. Dès qu'il déménageait, il fallait qu'il signale son nouveau domicile à la police. Donc, c'était des astreintes difficiles. Et on voit de manière très très fine les moments où affleure cette précarité. C'est au moment, par exemple, où, avec Apollinaire, ils ont un problème parce que des statuettes qu'ils avaient achetées avaient été volées. Donc Apollinaire ne savait pas du tout ça et est appelé au poste de police. Et Picasso et Apollinaire ont peur parce que Apollinaire est apatride, n'a pas de passeport. Picasso est étranger. Ils ont peur d'être expulsés. Donc ça, ils sentent qu'ils vivent dans une espèce de territoire un peu délicat. Mais vraiment, Picasso n'a jamais été harcelé. C'est quelqu'un qui a certainement une des choses que ce livre montre, c'est que à côté de cette difficulté de pénétrer la société française, parce que Montmartre c'était vraiment un endroit où vivaient les subalternes, Picasso a eu une intelligence politique et une intelligence stratégique exceptionnelle. C'est ça que ce livre montre. C'est un livre très positif. C'est pas un livre qui s'apitoie. D'ailleurs, Picasso ne parlait jamais de ça. Picasso n'a jamais parlé de cette demande de naturalisation qui a été refusée. Jamais. Et donc, on se doit de respecter le mutisme et la pudeur et la pudeur de cet immense génie et de remarquer comment il s'y est pris. Il s'y est pris en comprenant que la société française était rivée par deux institutions majeures à ce moment-là. Un, la police des étrangers, qui est la plus belle du monde. Et deux, l'Académie des Beaux-Arts, pour un artiste qui a toujours voulu subvertir la tradition. Son père était professeur, il a fait des tableaux académiques, mais vraiment, ce que Picasso veut, il a subverti. Il a subverti la tradition esthétique, il a subverti la hiérarchie entre les arts majeurs, sculpture et peinture, et les arts mineurs, artisanat. Il l'a subverti au moment du cubisme, entre 1907 et 1914, grâce à Braque, qui avait été formé comme artisan. Et il l'a subverti au moment des surréalistes, en prenant des récupérations. Il y a une très belle sculpture à l'exposition que vous verrez, Tête de femme, des années 30, avec des matériaux de récupération et avec des cheveux de femme qui ont l'air de voler dans le vent. Ça, c'est extraordinaire. Et il l'a subverti en retournant vers les artisans quand il va vivre à Valoris dans les années 50 et il devient un céramiste qui remet en question la céramique et qui devient le plus grand céramiste du monde en s'inventant des ancêtres dans la Grèce antique et la Rome antique. C'est absolument fascinant. Ce personnage est quelqu'un d'immense.
Oui, vous le dites, c'est aussi ce fin stratège qui va gommer au moment où il faut ce Ruiz dans son nom pour ne garder que Pablo Picasso, parce que Ruiz l'édictait très clairement. C'était un patronyme très commun. C'est aussi lui qui, lors lorsque Jean Salle, le directeur des musées nationaux, demande en 45 à plusieurs artistes, dont Matisse, dont Braque, de lui vendre des tableaux, va se montrer tout sauf rancunier et faire don. Et il sera le seul d'une partie de ces tableaux qui vont entrer du coup dans les musées de France, hein, et y trouver leur place. Mais je reviens juste sur la question du stigmate. Il ne s'agit pas évidemment d'élargir, de grossir les faits et d'en faire un homme traqué. Il va quand même porter, et vous le racontez, ce triple stigmate de l'étranger. Hein. Il est aussi un artiste d'avant-garde, d'extrême gauche et étranger. Ça, c'est le troisième stigmate. Il va devoir vivre avec ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire à cette époque-là ?
Mais vous voyez, quand vous avez fait écouter sa voix tout à l'heure, quand il reçoit...
Il évoque les blessures. Hein.
Oui, et quand... Il s'en souvenait pas, d'ailleurs. Il répond aux journalistes qu'il s'en souvenait pas.
Il ne veut pas s'en souvenir. Il a peut-être tourné la page. C'est quand même une question que vous soulevez pendant tout le livre. Et on essaye de comprendre comment cette histoire est restée si longtemps méconnue, hein, Annie Cohen-Solal. Est-ce que c'est lui qui va la mettre un peu sous le tapis? Ou est-ce que c'est la France qui va plutôt tendre à faire un peu oublier cette histoire-là?
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la première violence qu'il ressent, c'est au moment de la guerre de 14. Si vous voulez, ce sont les moments de crise dans lesquels la situation devient très très dure. Au moment de la guerre de 14, il a fourni la plus grande masse de ses productions, peut-être la plus héroïque. Il y a certains qui considèrent que c'est la seule vraie grande période de Picasso, c'est la période cubiste. Il a travaillé avec Braque comme un fou. Il a terminé par ses papiers collés et en 1914, son marchand, qui était brillantissime et qui était allemand, juif allemand, est séquestré. Pourquoi ? Parce qu'il est étranger. Donc, dans le séquestre de Canveller, il y a beaucoup d'œuvres, mais il y a 700 œuvres de Picasso, et parmi les plus belles qu'il vient de produire. Ça, pour Picasso, c'est un traumatisme énorme. Donc, les moments des guerres sont d'une grande violence. Les moments des années 30, comme on le sait, avec... on sait que la xénophobie se réveille au moment des crises économiques. Donc, on a fait appel à la main-d'œuvre immigrée après la guerre de 14, mais cette main-d'œuvre immigrée, on la rejette au moment de la crise de 29. Donc là, des critiques contre les métèques, contre les métèques qui viennent abâtardir le goût français se réveillent. Et ça, c'est terrible. Donc, moi, je pense que pendant les années 30, les choix que fait Picasso ne sont pas tant des choix esthétiques, parce qu'on a beaucoup parlé du passage du cubisme au classicisme, du classicisme au surréalisme, du surréalisme à l'art engagé, etc. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus de l'ordre social que ça se passe, et que Picasso a choisi des groupes où travailler qui lui permettaient de se protéger du couperet de l'État. Et ces groupes sont des groupes d'avant-garde et des groupes transnationaux. Premièrement, les ballets russes avec Diaghilev, qui connaissait les tableaux de Picasso parce qu'il les avait vus chez Morozov et Tchoukine à Moscou et Saint-Pétersbourg. Deuxièmement, avec Étienne de Beaumont, qui est un aristocrate français. Et l'aristocratie, qui avait été baissée la tête après la guerre, après la Révolution française, reprend du poil de la bête pendant la guerre de 14. Et les aristocrates comme Marie-Laure de Noailles et Étienne de Beaumont commandent des œuvres aux artistes d'avant-garde. Puis, il va rejoindre les surréalistes pour lesquels c'est un mentor. Breton disait que c'était le plus grand artiste depuis l'Antiquité. Puis il va s'inventer une propriété. Il devient très très riche, Picasso. C'est un étranger très riche. Et donc ça choque la police, parce que c'est pas normal. Un étranger n'est pas riche. Un étranger n'a pas un parc immobilier comme Picasso. Et donc là, il va s'acheter une propriété magnifique, un manoir en Normandie à Bois-Gelou, près de Gisors. Et puis après, donc, il va s'engager dans la guerre d'Espagne. Donc toute cette coexistence de style esthétique provient, à mon avis, d'un choix de lieu, de niche, où construire sa trajectoire dans la France de l'entre-deux-guerres.
Annie Cohen-Solal, notre invitée à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Picasso, l'étranger, c'est à Paris au musée de l'histoire de l'immigration et d'un beau catalogue qui l'accompagne, coédité par Fayard, et pour ce prix féminin essai que vous venez de recevoir, dont vous êtes la lauréate, Annie Cohen-Solal, pour ce livre « Un étranger nommé Picasso » paru à la rentrée chez Fayard. France Culture, il est déjà midi 21.
France Culture. La Grande Table, Olivia Jesbert.
Picasso va faire une demande de naturalisation. Ce sera en avril 1940 et elle va lui être refusée alors que la Seconde Guerre mondiale est donc déclarée qu'il n'est toujours pas français et qu'il se sent plus que jamais menacé. Il y a déjà eu de nombreuses analyses sur le rôle des grands étrangers dans la cité artistique de Modigliani à Chagall par exemple. Et Benjamin Stora nous le rappelle, lui qui préside aujourd'hui le conseil d'orientation du musée de l'histoire de l'immigration.
Non, il n'est plus. C'est François Héran maintenant.
Sur le conseil d'orientation.
Oui,
il n'est plus non plus directeur.
Non.
Ça, c'est Pap Ndiaye.
Oui, okay. C'est ça, oui, exactement.
Voilà.
Exactement.
Mais c'est lui qui a pensé cette exposition avec vous.
Oui.
Ok, à ce titre.
Pensé, il a donné l'idée, oui.
C'est ça. Voilà. Ancien directeur, donc, du musée.
Excusez-moi.
Benjamin Stora, le temps est venu de réinterpréter la place d'un Picasso dans la grande histoire des artistes étrangers, dit-il, de ces artistes qui ont fait la France, ceux qui tout simplement ont fait la culture française. On trouve ces mots dans le catalogue de cette exposition et on va maintenant l'écouter.
D'abord, ce qu'il veut, c'est raconter l'histoire de France, et pas simplement une histoire des immigrés, parce que si c'est de cette manière qu'aurait été conçu celui, ce serait à mon sens une erreur. Parce que l'histoire de l'immigration doit irriguer l'histoire de France, et fait partie de l'histoire de France. Et l'histoire de France, c'est aussi une histoire de l'immigration. Donc ça, c'est l'objectif, c'est d'en faire en sorte qu'il n'y ait pas des séparations d'histoire entre, d'une part, une histoire des immigrés, des étrangers, de la société française, et puis d'autre part, une histoire française, politique, culturelle, etc. Non, c'est de faire en sorte que ces histoires puissent se rejoindre. La France est le seul pays d'Europe qui a un musée de l'immigration. Il n'y en a pas d'autre. Le fait qu'on ait décidé quand même d'installer dans la durée ce musée, c'est quelque chose qui participe quand même de ce retournement de vision sur l'histoire française.
Benjamin Stora en 2019, Annie Cohen-Sola, L'étranger. Normalement, c'est vrai, c'est Camus aussi, en dehors des autres artistes qui ont contribué à l'histoire de France. Picasso et lui, alors vous êtes une sartrienne, vous le disiez tout à l'heure, mais là, concernant Camus, est-ce qu'ils avaient aussi des points communs? Est-ce que Picasso était un étranger à la manière de Camus, ou à la manière dont Camus l'entendait?
Ouh, quelle question! Alors, je pensais que, oui, dans ce cas-là, en général, on parle de Picasso et Sartre, mais alors Picasso et Camus... l'étranger de Camus, c'est pas du tout l'étranger de Picasso. Moi, je crois pas du tout. Picasso, il est étranger dans une société bien particulière, qui est une société aux prises avec deux Frances. Je dirais que c'est une France accueillante. C'est la France qui accueille les artistes du monde entier. Il n'y avait qu'un lieu où être pour un artiste. À l'époque, c'était Paris. Et Picasso le dit bien, même quand il retourne à Barcelone en 1903, il écrit à Max Jacob, « Je m'ennuie à Barcelone, ils sont idiots. Si j'avais un fils et qu'il voulait devenir peintre, il n'y aurait qu'un lieu, c'est Paris. » Donc, c'est une espèce de... Comment dire? C'est une espèce de lampe qui attire comme des papillons les artistes du monde entier. Alors, vous allez me dire, bien sûr, il y a l'Académie des Beaux-Arts qui est extrêmement traditionnelle, mais je vous dirais qu'il y a aussi les artistes d'avant-garde qui vont s'attaquer à cette Académie des Beaux-Arts, comme par exemple au moment du Salon des Refusés en 1863. Et ça, c'est la France. C'est une possibilité de subversion qu'il n'y a nulle part ailleurs.
Non, j'ai envie de vous dire que dans l'entre-deux-guerres, et vous le racontez, et vous êtes aussi une spécialiste des artistes de l'art, du marché de l'art américain, la reconnaissance vient de là-bas, le succès vient de là-bas aussi, et pas de la France. Il aurait pu émigrer aux États-Unis.
C'est une très très bonne question. Pourquoi Picasso n'est-il pas parti aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la Deuxième Guerre mondiale? Alors, ce qui est très original dans son parcours, c'est qu'il y a des paradoxes à tous les étages, je dirais. Paradoxes dans le fait que le cubisme, porté par Canveller, qui a un œil de l'histoire de l'art allemande, les historiens de l'art allemand, entre 1871 et 1914, étaient bien plus originaux, bien plus interdisciplinaires que les Français. Ils avaient fait aussi de la linguistique, ils avaient fait de l'anthropologie, ils s'intéressaient à l'art africain. En France, on était rivés sur le bon goût français hérité de Louis XIV. Bon. Et donc, la vente des œuvres produites à Paris par Picasso, cubiste, était vendue dans tous les empires d'Europe de l'Est, en Autriche-Hongrie, en Allemagne, en Russie. Et puis après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la production de Picasso surréaliste et autres a été vendue à New York grâce à Alfred Barr, directeur du MoMA, qui avait 29 ans quand on a ouvert le musée et qui a fait 4 immenses expositions autour de Picasso, qu'il considérait comme l'artiste cardinal du XXe siècle. Donc, en 1939, quand la guerre éclate, Picasso est enfermé dans son studio des Grands Augustins parce qu'on lui refuse la naturalisation française pendant 4 ans. Mais Alfred Barr a une exposition avec 400 œuvres qui s'appelle Picasso 40 Years of His Art, qui va irriguer l'ensemble des États-Unis et dans lequel il est vraiment considéré comme l'artiste constitutif de tous les mouvements d'avant-garde européens entre 1900 et 1940, ce qui est absolument extraordinaire. Donc il y a un contraste frappant entre la France et les autres pays dans la reconnaissance de l'œuvre de Picasso jusqu'en 1947, quand, vous le rappeliez très bien, Olivia, il fait son don au Musée de France et que là, Georges Salles, directeur des Musées de France, prononce la phrase historique. Aujourd'hui, cesse enfin en France le divorce entre l'État et le génie, parce qu'on accepte, voilà. Donc, il y a quelque chose de très particulier, si vous voulez, dans cet artiste qui va aimer la France, qui va y avoir ses familles, puisqu'il a plusieurs familles, plusieurs enfants, et qui ne quittera pas le territoire français. Il quittera Paris, et il le fera savoir, puisque en 1955, il quitte Paris pour s'installer dans le sud de la France, il ne revient plus jamais à Paris, et là, il va irriguer l'espace méditerranéen qui est le sien. Et je crois que c'est très intéressant de voir comment Picasso a modifié, déjà de manière d'avant-garde, cette relation aux nationalités, aux cultures, puisqu'on peut parler de sphère d'appartenance. Il appartient à une sphère méditerranéenne.
C'est peut-être le premier grand artiste européen.
Oui, en fait. C'est clair, oui. C'est tout à fait clair. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui.
Il y a 2 musées aujourd'hui, Picasso, ou plus.
Oh oui, il y en a beaucoup plus.
Il y en a à Barcelone, il y en a à Paris.
Antibes, le premier, c'est celui d'Antibes, dont vous parliez tout à l'heure. Et effectivement, Picasso a été un vecteur de modernisation de la France, en retournant complètement les stigmates. Et ça, c'est fascinant.
Merci beaucoup à vous, Annie Cohen-Solal, d'être venue nous en parler. Picasso, l'étranger, une exposition donc à voir, vous avez le temps, au Musée de l'Histoire de l'Émigration, et un livre à lire, Un étranger nommé Picasso, c'est chez Fayard.
Merci. Je peux rajouter qu'il y a un festival le 5 décembre ?
C'est fait.
Merci.
Merci. Merci.